Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
Est-ce qu'il y a vraiment eu, de façon sérieuse, de vraies négociations entre l'Iran et les États-Unis? C'est une question puis, que je me suis même venu à me poser depuis quelques jours, même quelques semaines.
Ben là, il veut s'asseoir que ça se passe.
Ben là, écoute, ça a été une trêve remplie de ça va pas, ça va bien, ça va pas bien. C'est un petit missile par-ci, un petit missile par-là. La trêve continue, on le sait plus, on le sait pas. Hier, Donald Trump nous annonce que, bon, là, il est tanné de se faire niaiser, que son pays s'est fait flouer par l'Iran, qu'il n'y a pas eu de réelle volonté. Et il annonce que ce soir, comme disait Dave Morissette, ce soir, ça va péter en Iran. Donc, lui a dit que ça allait être le retour des attaques massives. Ah. Est-ce qu'on retourne vers la guerre totale dans la péninsule arabique, dans ce pays du monde où ça brasse énormément? Allons jaser de tout ça et bien plus avec notre chroniqueur qui, d'ailleurs, est tout juste de retour d'un exercice militaire avec l'armée française. Benjamin Tremblay, comment vas-tu?
Salut, JC. Merci de me recevoir.
Mon Dieu, ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille, toi, depuis deux semaines.
Non, récemment, on était sur une autre sorte de fleuve non tranquille.
Hey, on va y revenir parce que je trouve ça intéressant que tu aies pu vivre cette expérience-là. Mais juste avant, est-ce que ma question est légitime? Je me suis posé la question cette semaine, en fin de semaine passée, pour être précis. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment eu des négos? Parce que, tu sais, Trump n'était pas là. C'était des genres de négos interposés avec d'autres gens de ce coin-là, du globe. Est-ce que quelqu'un a niaisé quelqu'un pendant un mois et demi, là?
C'est une très bonne question. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les deux avaient des objectifs et une vision différente pour les négociations. Les Américains, eux, ce qu'ils voulaient, c'était essentiellement revenir à l'état d'avant-guerre. Où là, on dit, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour rouvrir Hormuz? Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on normalise autant que possible les relations avec l'Iran? Et on pourrait peut-être lever les sanctions, quelques petites concessions comme ça qui étaient imaginées par les Américains. Mais manifestement, les Iraniens, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à formaliser une victoire stratégique complète et totale sur les Américains. Ils essaient de mettre ça noir sur blanc, puis s'assurer que tout le monde a vu la même chose à un moment donné. Donc, considérant ça, ce qu'ils veulent faire, c'est d'en extraire des concessions avant qu'on déclare un cessez-le-feu. Et là, ce qui, je crois, s'est passé dans cette séquence de négociations-là, c'est vraiment ironique, mais moi, c'est ma théorie. C'est qu'on a commencé avec une vraie intention de négocier. Tant du côté des Américains, on voulait que la guerre s'arrête. Du côté des Iraniens, on voulait formaliser tout ça. Donc, chacun, on a tiré un peu de notre bord pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'on constate la limite, le plafond, que les deux n'étaient pas prêts à faire les concessions nécessaires. Là, on est rentré vraiment dans une vraie impasse, dans un enlisement. Et c'est à ce moment-là que les Israéliens sont allés faire un cadeau exceptionnel aux Iraniens, en fait. Parce que à chaque fois qu'ils entendaient parler d'une possible entente puis d'une négociation qui était tout le temps fausse, qui était tout le temps juste vraiment de la gestion d'attente qui était faite par la Maison-Blanche, par Trump, pour faire baisser le marché pétrolier, pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui capote ça à la bourse, pour qu'on croit encore. Écoute, je me faisais dire cette semaine là, par la chaîne CNN qu'on a fait le décompte, on est à 37 ententes imminentes promises par Donald Trump.
À tous les deux jours.
Depuis le début du cessez-le-feu, ça a tous les deux jours, effectivement, on arrive avec « ça s'en vient, inquiétez-vous pas, là, puis c'est d'ici quelques heures, on a quelque chose ». Fait que premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, Israël, bon, à ce moment-là, a constaté qu'eux n'étaient pas confortables du tout avec une entente de paix, ils n'étaient pas confortables avec les termes qui étaient mis de l'avant dans la négociation. D'ailleurs, on a appris cette semaine, en fait, il y a quelques jours, que le Pentagone a relevé le niveau de menace pour l'espionnage israélien sur les États-Unis de élevé à critique, qui est le niveau le plus élevé. Essentiellement, ce que les Américains se rendent compte, c'est que depuis qu'ils ont expulsé les Israéliens, si on veut, de la pièce pour ce qui est des négociations, les Israéliens qui étaient carrément dans le cockpit avec les Américains à déterminer comment et où allait atterrir l'avion et quand, ben là, ils se retrouvent en arrière à être obligés d'espionner l'équipage. On espionne les Américains, on espionne les Iraniens pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois qu'ils voient des termes, ils ne sont pas satisfaits, donc ils essaient de saboter les négociations. Et là, à un moment donné, tu fais ça une fois, puis deux fois, puis trois fois que tu bombardes le Liban ou que tu vas gosser quelqu'un à Gaza. Tu vas faire quelque chose pour provoquer l'Iran puis causer l'effondrement des négociations. L'Iran voit ça, là. L'Iran voit très bien ce que c'est en train de causer, où là, tu vois carrément une dégradation de la relation entre Israël puis les États-Unis, oui, entre la coalition de leurs adversaires. Fait que les Iraniens voient ça, sont morts de rire. Ils disent, mon Dieu, si on peut prolonger ça le plus possible, si on peut amener Israël puis les États-Unis à vivre une vraie rupture stratégique, c'est la grande victoire de la guerre, là, bien plus que n'importe quoi d'autre.
Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible où les liens israélo-américains sont condamnés à être soudés jusqu'à la fin des temps, ou si vraiment, à un moment... Moi, j'ai senti à un moment donné que Trump, en commençant à en avoir plein le derrière là, de ouais. Netanyahou, est-ce que tu penses qu'on va vivre ça, la rupture diplomatique entre les deux pays?
Absolument. Puis ça, je sais qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me lancent des tomates puis me disent que je suis un extraterrestre. Je suis vraiment tout seul sur mon île, mais depuis le début du conflit, que moi, je relève que la grande menace là-dessus, et c'est une vraie possibilité, c'est que Trump décide éventuellement de sauver la face en lançant Netanyahou en dessous de l'autobus. Puis là, t'as pas besoin de lancer Israël au complet. Puis c'est comme ça que Trump pourrait s'en sortir. C'est qu'il pourrait vraiment personnifier ça autour de Netanyahou, qui est vraiment celui qui est identifié comme étant le responsable pour avoir entraîner les États-Unis dans la guerre, celui qui a lobbyé le plus, qui a aussi mis de l'avant des faussetés, là, carrément des fabrications en matière de renseignement, en matière d'intelligence qui ont été fournies à Maison-Blanche, comme quoi ce serait une campagne rapide, comme quoi le régime était au bord de tomber. Ouais. On leur a promis plein d'opérations qui se sont jamais manifestées. Fait que ça, là-dessus, ben, Trump a vraiment une fenêtre politique exceptionnelle pour garrocher Netanyahou en dessous de l'autobus, dire « Moi, on m'a entraîné là-dedans. Maintenant, pour répondre à ta question directement, est-ce qu'il peut? » Bien, c'est là que je suis un peu tout seul sur mon île. Les gens vont me dire « C'est impossible. »
Il y a beaucoup d'intérêts quand même, tu sais, même économiques et autres. Là, entre
Trump est financé spécifiquement par Israël. Il a toujours été très près d'eux. Maintenant, la question que moi, je dis que je pose, et c'est avec cet angle-là que je l'approche, c'est est-ce qu'il y a un président américain dans l'histoire des États-Unis qui est plus prêt à flotter par-dessus justement ces conventions, ces traditions, ces interdictions de Washington en s'en balançant un peu là, justement des antécédents. S'il y en a un dans l'histoire des États-Unis qui serait capable de briser cette vitrine-là, ce tabou qui est la relation entre Israël et les États-Unis, c'est intouchable. Écoute, on en a fait quelques-uns. On a touché à la culture woke, on a détruit les médias, on a détruit beaucoup d'interdits, si on veut, qui ont été attaqués par Trump puis qui, au bout de la ligne, ont été politiquement très payants. Fait que là, moment en plus, t'as une fenêtre stratégique incroyable qui s'ouvre pour Trump, alors que on le voit, là, t'as carrément une baisse de la popularité, on peut dire carrément une insatisfaction profonde puis une frustration énorme au sein de la droite américaine qui est en train d'émerger vis-à-vis non seulement Israël, mais surtout l'influence qu'a Israël aux États-Unis, l'influence du lobby israélien. Fait que si Trump décidait demain matin de balancer Netanyahou en dessous de l'autobus en disant « Israël, c'est notre allié, mais le gouvernement actuel travaille contre nos intérêts puis il n'y a pas de bon sens », il y aurait probablement le soutien d'au moins la moitié de sa base.
Puis il y aurait une façon, comme tu dis, de le twister pour que ce soit pas contre Israël au complet, juste de cibler le gouvernement Netanyahou. Effectivement, c'est quelque chose que Trump, je le verrais faire ça. T'sais, c'est pas quelque chose qui me surprendrait tant que ça. Trump nous annonce justement que ce soir, ça va frapper très, très fort. Est-ce qu'on est reparti pour une guerre totale dans la péninsule arabique?
Maudite bonne question. Moi, j'ai l'impression, écoute, tu te souviens la dernière fois qu'il nous avait dit « La whole civilization will die tonight ». Il avait pris son ton de Kim Jong-un pour nous dire qu'il allait annihiler la planète. Puis s'avère-t-il qu'au fond, il ne s'était rien passé. Pourquoi? Parce que c'était des pays du Golfe qui avaient pris le téléphone, l'Arabie Saoudite, Qatar, Arabes Unis, les alliés du Golfe. Qui viennent dire, puis absolument raison, qui disent « Toi, tu fais des menaces, mais c'est facile de faire des menaces. » Quand les Iraniens répondent, ils ne répondent pas sur des bases américaines puis sur des intérêts américains. Ils sont rendus qu'ils attaquent les installations pétrolières du Koweït, la Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est facile pour les Américains de faire ce genre de menaces, d'aller attaquer l'Iran s'ils ne s'exposent pas eux-mêmes à la réponse. Fait que là, ce que tu voyais, c'était des pays du Golfe qui étaient frustrés par le manque, l'improvisation, le manque de planification des Américains, qui n'ont pas vraiment de bonnes réponses par rapport à qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils ont attaqué l'Iran. Ben, ils ont pris le téléphone puis ont fait annuler l'attaque. Fait que là, cette fois, Trump, moi, j'ai l'impression, On s'entend, là, on nous parle d'aller chercher l'île de Karg. On en parlait ensemble, JC, il y a des mois, littéralement, là, alors qu'on était au beau milieu des bombardements, où là, les Américains rentraient dans l'enlisement, ne savaient pas trop comment s'en sortir, et ils nous parlaient qu'ils allaient prendre l'île de Karg. Le but de prendre l'île de Karg, c'est relativement simple, c'est que tu as 90 % à peu près là, des exportations de pétrole iraniennes qui viennent par ce petit terminal pétrolier. C'est vraiment juste un terminal. Ils ne produisent pas de pétrole à Karg. Ils le reçoivent à partir du continent, puis ils l'exportent ensuite. Maintenant, on se souvient aussi d'une chose, JC. Les Américains maintiennent actuellement, au moment où on se parle, un blocus maritime sur tous les ports iraniens. Fait que la logique que nous dit Trump en ce moment, que là, on va aller prendre Karg, comme ça, ça va couper les exportations pétrolières iraniennes, ça tient pas debout. Il est déjà censé être coupé. Ce que Trump est en train d'essayer de faire, c'est vraiment qu'il voit que les négociations sont enlisées, il voit que ça va nulle part, que les Iraniens font tout pour prolonger ça, qu'ils sont morts de rire. Et donc, il essaie de faire plus de la gesticulation que d'autres choses. C'est pas tellement une manœuvre militaire qu'une manœuvre pour essayer de débloquer le processus diplomatique. Maintenant, la question qu'on pose depuis le début, c'est-à-dire, tu fais quoi quand tu l'as, Karg? Tu te ramasses avec 7-8 000 Marines qui sont essentiellement des canards flottants sur l'île de Karg, qui sont très faciles à frapper. Fait qu'on s'en va probablement soit vers un taco spectaculaire où Trump va encore reculer en nous disant « Ah, ils nous ont appelés à minuit moins une, puis finalement, ils ont une proposition. » Ou soit ça va être « On va effectivement aller vers Karg. » Écoute, ce sera une des plus grosses bourdes des Américains depuis le début, là.
Benjamin, changement de sujet, mais on reste dans le militaire, mais t'es allé faire un exercice avec l'armée française conjointement avec l'armée canadienne.
Oui.
Comment ça... Pourquoi, hein? Quelqu'un t'appelle ou c'est toi qui avais fait les démarches?
Ben, on était déjà en contact avec le gouvernement français parce que je passe en France pour une tournée médiatique puis une tournée de la France au cours la fin du mois de juin. Donc, on était en contact avec le gouvernement français. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y aurait quelqu'un peut-être dans l'état-major politique, militaire ou diplomatique avec qui on pourrait parler. Je trouve le repositionnement de la France actuellement, c'est là on voit les Américains qui se retirent d'un peu partout. Bien, les seuls, si on veut, dans la famille occidentale qui ont accès à une armée globale, une empreinte militaire mondiale, un complexe militaro-industriel local, etc., une armée sérieuse, dans le fond, ce sont les Français. Oui. Moi, je voulais un peu documenter ce pivot-là. Puis eux, bon, dans le cadre de cette négociation, discussion-là, nous ont dit, écoutez, on a justement des navires qui vont participer à une mission très prochainement avec des navires canadiens au large d'Halifax. Donc, pourquoi vous embarquez pas avec nous autres? Et là, c'est une opportunité absolument fantastique. Je vais être sincère, au début, j'hésitais à y aller. Puis c'est un de mes collègues qui me dit, écoute, Benjamin, tu voulais aller au Congo, là. Je pense que tu peux faire un effort pour un navire. Moi, j'avais peur du confort. J'avais peur d'être dans une espèce de canne de sardines. Je vais être sincère, les amis, là. Et non, finalement, c'est un séjour extraordinaire.
Ah, je pensais d'être dit, et c'était le cas.
Et c'était le cas. Non, vraiment. Finalement, c'est le contraire. Écoute, c'est un énorme porte-hélicoptère, là, de la classe Mistral. Ceux qui s'intéressent, c'est le navire s'appelle le Dixmude. Pour être sincère, moi, je m'attendais justement à une canne de sardines. C'est une polyvalente. C'est configuré comme tel. Je m'étire les bras de chaque côté. Je suis pas capable de toucher au mur, je suis pas capable de toucher au plafond. C'est gigantesque, c'est surdimensionné. T'as des hôpitaux, les cafétérias, c'est vraiment monté comme une polyvalente. T'as 600 personnes à bord, 800 personnes dans le groupe naval au complet. C'est hallucinant. Fait que là, t'avais, bon, le Dixmude qui était pour des exercices en mer avec la garde côtière canadienne puis des navires de la marine au large d'Halifax. Donc, on quittait Halifax pour 4 jours en mer. Là, c'était, bon, des exercices de drone, exercices de search and rescue en mer. On a beaucoup de décollage, atterrissage, hélicoptère. Puis la spécificité du Dixmude, c'est que c'est un navire amphibie. Et ça, ben, c'est un aspect que je t'avoue que nous, on a souvent les porte-avions en tête, là, ces gigantesques bâtiments de guerre qui sont là pour projeter des avions puis les rattraper. Maintenant, les porte-hélicoptères, je t'avoue, je me posais la question de l'utilité. Mais là, c'est ça que je découvrais. C'est que c'est des espèces de couteaux suisses qui te permettent d'apporter des hélicoptères, faire du soutien de tes opérations au sol, d'avoir directement de l'équipement terrestre embarqué à bord. Là-dessus, écoute, eux, c'est vraiment fascinant de voir comment ils fonctionnent. Là où tu as la marine, dans le fond, qui donne un lift à l'armée de terre, qui elle-même est embarquée à l'intérieur du navire. Puis lorsqu'il arrive à terre, bien, c'est l'armée de terre qui prend les devants, sort ses équipements par un débarquement amphibie. Puis à partir de là, sont en mesure d'opérer essentiellement n'importe où. Fait qu'une énorme infrastructure, JC. Puis s'il y a quoi que ce soit, là, je vais être sincère avec toi, j'ai été gêné. J'ai été embarrassé comme Canadien parce que... Ben oui, parce que, tu sais, nous autres, on va là un peu avec le mindset de... T'sais, on est en train d'investir des dizaines de milliards dans notre industrie militaire, dans notre complexe indigène. On veut être capable de produire chez nous nos armes, d'avoir nos affaires. Et là, t'embarques avec les Français. Et là, tu constates, mon ami, le rattrapage. Ah, écoute, des décennies de retard. Là, c'est parce que c'est pas juste la tôle là, qu'il faut monter. Là. C'est, vois-tu le Dixmude, justement? C'est un navire d'entraînement, ça, là. C'est un énorme navire qui coûte une fortune, mon homme, des centaines de milliards d'euros et qui sert essentiellement à former la Marine nationale française. À bord du navire, en tout temps, tu as à peu près 160 élèves officiers qui sont là pour apprendre les fonctions, apprendre à naviguer. Fait que, tu sais, tu as la tôle, tu as les équipements, tu as les armes, mais tu as aussi tous les laboratoires, toutes les écoles navales, les universités, les finissants que tu as besoin de sortir de là, l'expertise locale. Là, vois-tu, on arrivait à Halifax. Rendu à Halifax, ça, c'est l'entreprise française, l'industriel français Thales qui arrive, qui vient s'installer à Halifax avec ses équipes pour aller réparer l'antenne à bord du navire ou un radar ou un équipement quelconque. Fait que là, tu constates, OK, ça veut dire qu'il faut non seulement que tu aies le navire, il faut aussi que tu aies l'armée qui génère les commandes suffisantes pour maintenir ces énormes industriels. Fait qu'écoute, moi, ça m'a découragé. Il n'y a pas d'autre mot, ça m'a découragé de voir on est à des décennies. Tu sais, quand tu commences à fermer, à sortir de service tes navires, puis tes chars, puis tes avions sans les renouveler, bien là, les bases se vident. Tu n'as plus besoin des staffés avec du monde. Tu fermes l'école nationale militaire, tu fermes les écoles navales, tu fermes tes laboratoires, tes universités. Puis bientôt, le secteur privé, il n'y a tout simplement plus d'intérêt à travailler avec toi.
Puis disons-le, présentement, on est en panique. Là. Tous ces investissements, je comprends, mais on ne verra pas les résultats de ça avant une bonne décennie. Facile. Là.
Ah non, c'est ça qu'on constate. C'est qu'une fois que tu arrêtes, tu ne peux pas vraiment arrêter. Puis la France, ben, c'est là-dessus. Il faut leur donner. Vois-tu, j'aime bien les taquiner, nos amis français.
Ah, Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris des notes.
Oui, c'est un peu ça. C'est que tu vois, c'est un peu sous l'époque de Gaulle, en fait. C'est du gaullisme pur et dur qui disait... T'sais, c'est un pari extrêmement contre-intuitif, là, auquel se fait des décennies, JC, qu'on comprend les pays du monde. Là. C'était de la stabilité, c'était de l'intégration. De plus en plus, on avait moins besoin de nos armes. On était en mesure d'avoir de la paix.
Et il faut que je l'ajoute, au Canada, on s'est accoté sur notre grand frère américain. Là, beaucoup. Là.
Sur la locomotive sécuritaire internationale. Fait que tout le monde se disait, pourquoi investir des centaines de milliards dans l'armée quand on peut profiter de ce dividende-là? Les seuls qui ont été à contre-courant, contre-intuitifs, qui ont investi au détriment de bien des affaires en se disant, un jour, ça va être nécessaire, c'est les Français. Fait que là, on réalise, les Allemands sont tout nus, les Britanniques sont tout nus, les Belges, les Espagnols, tout le monde en Europe est tout nu, le Canada, les seuls qui ont encore quelque chose sur le dos, c'est les Français. Fait que ça m'a apporté à réfléchir beaucoup sur l'autonomie stratégique.
Est-ce que, en terminant, il faut se quitter, mais est-ce que c'est sorti ton documentaire ou ça s'en vient là-dessus, ton vidéo sur YouTube?
Ah non, ça va arriver vraiment dans un bout, d'après moi. J'ai un petit séjour en France à faire, puis on va peut-être passer un mois en production là-dessus, mais il y aura quelque chose éventuellement.
On surveille ça avec beaucoup d'attention. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Merci. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. Salut, bye. Benjamin Tremblay, du Média international indépendant, 7 jours sur Terre. Trouvez ça sur YouTube. 13:42, on vient, nous autres.
Willette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.